show du matin. Weekend.
Avec Carbo.
Pour moi, c'est pas juste de la taupe.
Radio X.
Dans ce show du matin week-end, ce sera une météo coup-ci, coup-ça, là, Mélanie, là, pour les prochains jours. Encore une fois, on est dans une espèce de vague bizarroïde de température. C'est 13 degrés présentement, avec un ciel qui est pas mal totalement nuageux. On aura quand même des percées de soleil. 40 % de probabilité d'averse dans la journée. Un maximum avec de l'humidex à 22 degrés, ressenti 27. C'est quand même bien. Demain, on a un peu tassé la pluie, mais on aura un beau 26 degrés avec un aussi humidex à 29. Et lundi, ben oui, toi, alternance soleil-nuage à 24 degrés.
Bon, tu vois?
Quelqu'un que j'ai appris à connaître sur les réseaux, une fille qui est hyper allumée, j'adore la manière dont elle vulgarise son métier. Une matière à l'école où on n'a pas toujours été bon, on n'a pas tout été bon. Je sais pas si toi, en physique, c'était bon en secondaire 4.
Moi, je peux te le dire, là. Que Carbo, ma physique, je l'ai coulé, j'ai repris l'examen, je me suis pris un professeur, je l'ai coulé aussi.
Ah oui, hein?
J'ai vraiment de la misère.
Ben,
mais
Stéphanie,
j'ai tout essayé.
Stéphanie, qui est avec nous, elle est physicienne.
Ah,
elle est
aussi, m'aider.
Elle est aussi très bonne vulgarisatrice. Elle est une passionnée de beaucoup de beaux dossiers, en l'occurrence les guerres, les grandes guerres et tout ça. Et on l'a avec nous. Elle a accepté notre invitation. Elle sera chroniqueuse officielle pour le retour des vacances. Stéphanie Jolicoeur, bonjour Stéphanie.
Allô, Carl, comment ça va?
Ah, ça va. Quand je te jase, c'est le fun, c'est parfait.
Moi aussi, je suis tellement contente de te parler.
Je suis heureux. Stéphanie, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es physicienne.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je suis pas physicienne dans le sens, là, je fais pas de la recherche en physique, mais j'ai étudié en physique.
Oui.
Puis, je me suis rendu compte que je voulais pas être physicienne parce que j'aimais ça, parler de la physique aux gens. Donc, je suis devenue communicatrice scientifique.
Oui, mais ton autre formation aussi.
J'ai une formation en théâtre aussi.
Wow!
Donc, quelqu'un qui est capable de vulgariser, c'est déjà bien. Quelqu'un qui va livrer la marchandise comme tu le fais dans tes vidéos sur les réseaux, c'est extraordinaire.
Ah, oh, ben merci, Carl. Et là, tu sais, là, t'avais flashé sur une de mes vidéos, j'avais envie qu'on s'en parle. J'adore ça quand la science et l'histoire se rencontrent, évidemment, les guerres mondiales en particulier. Puis, c'est ça, j'ai découvert récemment que la science pouvait nous aider à identifier justement des corps de soldats des deux guerres mondiales parce qu'on en retrouve encore régulièrement. En Europe, évidemment, il y a des gens partout qui sont morts, puis il y a encore des millions de corps qui n'ont pas été retrouvés. Puis ça arrive, là, tu sais, comme à chaque année, un agriculteur qui travaille sa terre ou une équipe de construction qui excave le sol pour construire un stationnement, des gens qui se promènent en forêt en Russie, retrouvent des corps de soldats. Puis pendant longtemps, on n'avait pas grand moyen de les identifier. Sauf que, tu sais, pour la dignité dans la mort, là, ben, c'est le fun de pouvoir les identifier et les mettre dans un cimetière militaire avec un nom sur une pierre tombale.
Absolument.
Là, j'ai appris comment la génétique pouvait aider. Mais je t'ai réservé une autre surprise. Celle-là, tu connais pas ces histoires-là. J'ai appris que la science aussi pouvait aider les victimes modernes des guerres mondiales parce que, Carl, presque à chaque année, il y a des Français ou des Anglais qui se présentent à l'urgence avec des obus de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale coincés dans leur cavité rectale.
Ben non!
Qu'est-ce que c'est? Il y a de la science derrière tout aussi. Donc, je savais, je te l'ai pas dit d'avance, mais parlons d'abord de la génétique. Je vais garder le meilleur pour la fin, évidemment.
Ben oui.
Mais moi, c'est ça, comme tu dis, j'ai étudié en physique, fait que toutes les affaires médicaux, la génétique, je suis un peu moins spécialisée là-dedans, j'apprends encore des affaires. Puis, en regardant comment on utilisait la génétique pour identifier des corps vieux de 110 ans, j'ai appris qu'il y avait genre plusieurs sortes d'ADN. Il n'y avait pas comme juste l'ADN qu'on connaît, là, qu'on a vu dans le parc jurassique. Là.
Ouais.
Il y a une autre sorte d'ADN. Okay? Parce que l'affaire, c'est que quand on trouve un corps, bon, il y a plein de moyens. Là, t'sais, les soldats, s'ils ont encore leur dog tag avec leur nom dessus, ben, c'est le meilleur scénario, on sait c'est qui. Des fois, l'endroit où il a été retrouvé, ça peut nous donner des indices sur comme son unité, la bataille où il est mort, tout ça. On peut regarder le squelette, vraiment l'anthropologie médico-légale qui peut nous indiquer déjà son âge, si c'était un homme ou une femme, s'il y avait certaines maladies en mourant. Ça n'aide pas nécessairement beaucoup pour l'identifier. Puis depuis quelques décennies, ben, heureusement, on maîtrise la génétique. Avant, on n'avait pas ça. L'affaire, c'est que l'ADN, tu connais l'ADN,
mais oui,
Carl.
Mais oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'ADN?
Ben, notre empreinte génétique à nous, là.
Exactement.
La famille, d'où on vient, là, c'est un peu notre signature propre à nous ou à notre famille.
Exactement. Et c'est ça, c'est la chose la plus unique qu'on a. Tu sais, quand on parle de criminalistique ou d'identifier des corps, on parle souvent des dents, les formes des dents, si on a des moules que les dentistes avaient pris, les empreintes digitales. Mais tout ça, il y a toujours une minuscule probabilité qu'il y ait des erreurs ou qu'il y ait des empreintes ou des moules dentaires qui se ressemblent. Mais l'ADN, avec ça, tu es certain. Tu sais, il n'y a personne qui a le même code génétique que toi. La moitié t'a été donnée par ta mère, puis la moitié par ton père. Puis ça se trouve dans une molécule, dans le noyau de tes cellules, qui est comme en forme de colimaçon. Tu sais, on se souvient des images du parc jurassique. Sauf que l'affaire, c'est que l'ADN, là, ça ne survit pas après la mort. Ça explique pas qu'on puisse identifier des gens qui sont morts il y a 110 ans. Là, moi, j'étais comme, voyons donc, tu sais, que, je veux dire, on nous dit, l'ADN est super fragile. Il suffit de se planter dans le soleil sans crème solaire, puis juste les rayons UV du soleil abîment notre ADN.
Exact.
Comment ça se fait qu'on puisse. En fait, c'est que c'est pas de cet ADN-là dont on se sert quand on a justement identifié quelqu'un de mort depuis longtemps. Dans nos cellules, il y a un noyau avec l'ADN classique, mais. Dans le reste de la cellule, imagine la cellule comme un œuf. Le noyau, c'est le jaune d'œuf, puis le reste, c'est le blanc d'œuf.
OK.
Bien, dans le blanc d'œuf, il y a ce qu'on appelle des mitochondries. C'est comme des petites usines à énergie. Puis dans les mitochondries, il y a de l'ADN. Sauf que c'est de l'ADN fait différemment. Lui, il n'est pas en forme de petit colimaçon, il est en forme de beigne.
OK.
Et l'ADN en beigne, lui, il survit plus longtemps après la mort.
Oh.
À cause de sa forme en beigne, il survit plus longtemps aux UV, aux bactéries qui nous dégradent après la mort. Et en fait, il y a à peu près comme quelques centaines d'années de durée de vie, cet ADN-là. C'est pour ça qu'on ne peut quand même pas faire des dinosaures avec de l'ADN de dinosaures. Là, on ne peut pas prendre de l'ADN vieux de 60 millions d'années pour faire des dinosaures. Mais si quelqu'un est mort il y a à peu près 100 ans, on peut aller chercher le matériel génétique de l'ADN en beigne pour l'identifier.
Ah, c'est hot, ça, par exemple.
C'est vraiment hot. Cet ADN-là, il y a un petit quelque chose, par exemple, il contient juste l'information de notre mère, okay. Pas de notre père.
Ah, c'est drôle, si ça soit séparé de même.
Il y a pas de raison particulière, c'est juste comme fait comme ça. Peut-être qu'il y a un ADN qu'on n'a pas encore découvert à quelque part dans notre corps qui a l'information juste de notre père, mais c'est ça, l'ADN en beigne. Donc, il faut quand même que ta mère, à quelque part, ait fait des tests d'ADN pour qu'on puisse trouver un match. Mais en 2025 encore, j'allais sur le site du gouvernement du Canada, on a identifié un soldat qui était mort pendant l'offensive de la Somme en 1916, puis on a pu comme aller le placer enfin 110 ans plus tard, dans un cimetière avec son nom sur sa pierre. C'est quand même fou, là.
Oui, c'est extraordinaire de voir ça. Puis c'est très d'actualité. Parce que je suis allé visiter au 80e de la Normandie.
Ah,
oui? Oui, puis il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas juste marcher. Là, c'est très, très réglementé. Il y a des endroits, bon, d'abord, repose des corps. Mais aussi, ces endroits-là sont encore juchés bien plein de mines. Là. Tu ne peux pas aller là, exactement.
Hey, mais je trouve ça fou que ça. Je suis allée, moi, l'année passée, Carl. La prochaine fois, appelle-moi, on va y aller.
Ben, on va y aller ensemble, certains. Deux Stéphanie dans le char, ça va bien aller.
C'est ça. mais c'est fou. Parce que moi aussi, quand je suis allée, ça m'a frappé parce qu'il y a vraiment des endroits où il faut que tu t'arrêtes. Puis là, il y a une pancarte qui dit après ce point, c'est comme à vos risques et périls parce qu'on ne sait pas s'il y a des mines ou des obus qui n'ont pas explosé. Hey, juste à Verdun. Il y a eu une bataille qui a duré 10 mois. Il y a 60 millions d'obus qui ont été lancés. Sur 10 mois, ça fait en moyenne 2,3 obus à la seconde.
Ah, c'est fou.
Non-stop pendant 10 mois. Et là, tout ce sol-là est rempli d'obus. Et là, j'en viens à mes cavités rectales parce que justement, quand tu le sais, tu l'as vu, ça doit être assez facile en France de juste aller prendre une pelle. Là, faites pas ça, là. Mais d'aller prendre une pelle puis de trouver des obus, là, sérieusement.
Je te dis que c'est très, très facile parce que j'ai un ami, en l'occurrence Ludo, qui fait ça. Là. Lui, c'est un Européen qui est rendu ici au Québec et il fait des voyages réguliers puis il va avec son détecteur de métal puis il trouve plein de choses là-bas. Mais là, t'es un peu, là. T'es un rendu là, qu'on se met un obus d'infofoune, là. Ça marche pas, là.
Ben, c'est ça. Parce que là, apparemment, il y a des gens qui collectionnent ces obus-là. Puis que, tu sais, il y a différentes choses à faire avec nos collections. Mais il y en a qui. Tu sais, on fait les choix qu'on fait. Donc, en janvier 2026, en janvier 2021 et en décembre 2022, Deux Français puis un Britannique, individuellement, se sont rendus dans les urgences de leur hôpital local. Et leur problème, c'est qu'ils avaient un obus d'environ de 4 à 6 cm de large.
Ben voyons!
Coincé. Oh, mais ça va, Carl! Hey, moi, je suis allée chercher le diamètre maximal d'un anus humain, c'est comme 17 cm. Rendu là, t'as des dommages, t'as des séquelles. Mais il y avait encore du lousme.
OK.
Sauf que l'affaire, c'est que c'est dur à ressortir après. Puis dans ce temps-là, ça fait beaucoup de problèmes pour l'hôpital parce qu'avant d'opérer les gens pour retirer la chose, il faut quand même qu'ils appellent les services anti-explosion, là, les
déminage.
Services qui viennent de déminage. C'est ça, merci. Parce qu'il n'y a aucune garantie si c'est une espèce de, voyons, tu sais, un navet, là, un obus qui explosera jamais ou si ouais. c'est un obus qui est encore actif. Donc, ils doivent d'abord prendre ces en considération-là. Puis moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a de la science là-dedans. Parce que, Carl, on peut faire ça avec des obus de 1900 et plus récents. C'est des obus modernes.
Ouais.
Mais on ne pourrait pas faire ça avec des boulets de canon, genre les canons de la Citadelle de Québec.
Non.
Puis sais-tu pourquoi? C'est parce que pendant, genre, je ne sais pas, 2000 ans, nos projectiles d'armes à feu ont toujours été ronds.
Sphériques.
Mais... c'est ça, sphérique, puis c'est pas une forme très aérodynamique. Puis en 1841, il y a un monsieur qui s'appelait Minier qui a inventé les premières balles coniques. Parce que pour nous, c'est naturel qu'une balle ait une forme, un profil effilé de torpille, mais ça n'a pas toujours été ça, tu le sais. Il n'y a pas un arbre à Québec avec un boulet de canon coincé.
Oui, on en a eu un, mais là, ils l'ont retiré, là, parce qu'en réalité, c'était pas la vérité.
Ah, puis c'est pas bon.
Ils l'ont retiré sur la rue Saint-Louis, mais. T'as bien raison. Avant ça, on garochait des ronds. Puis là, maintenant, on garoche des torpilles.
C'est parce que ça va plus vite, en fait. Cette forme-là de torpille, c'est la forme la plus aérodynamique. Quand l'obus ou la balle de canon vole dans l'air, l'air frotte, tu sais, sur les côtés de l'obus au fur et à mesure que ça vole. Puis ça vole assez vite. Mais la friction entre l'air et l'obus, ça va le ralentir. Et le but, c'est de trouver la forme optimale pour que l'air coule le plus doucement possible le long de l'obus. Et cette forme-là, c'est la forme de torpille. Puis c'est pas pour rien, les poissons les plus rapides au monde, ce sont tous des poissons qui ont vraiment comme un nez effilé. Ce sont eux qui peuvent nager à genre 132 km/h. Alors
fou,
nous,
hein?
On s'est inspiré de ça. Puis de nos jours, ben un obus d'artillerie de la Première Guerre mondiale pouvait voler à comme 1000 à 2000 km/h. Alors qu'un boulet de canon rond, genre ceux qu'on a sur la Citadelle à Québec, bien, ça allait comme à max 800 km/h, tu sais.
OK. Et qu'on parcourt du temps, on peut faire plus de dommages plus rapidement.
Mais et de là, apparemment,
de
ça
là,
nous permet aussi de
faire
plaisir.
Ouais, bien là, Stéphanie, je pensais pas que tu allais m'amener là.
Je sais, j'avais très hâte.
Il y a encore du lousse. Oh non, c'est vrai.
Mais là, je te dirais, moi, j'ai lu, tu sais, à 17 cm, ça vient avec, tu sais, des déchirements,
oh,
de la
peau. Ben là, je comprends donc.
C'est pas le bouchon trop loin.
C'est le fun de jaser avec toi de tous ces sujets. Là, j'ai vu un de tes derniers vidéos où on parle d'un téléviseur, là.
Une radio. En fait, moi, je sélectionne les radios et les téléphones de la Deuxième et Première Guerre mondiale. Puis cette radio-là est bien spéciale parce que c'est une radio qui servait à disséminer la propagande nazie au peuple.
C'est fou, hein?
Oui. Puis moi, tu sais, dans ma vidéo, je le dis, mais je suis vraiment contente qu'on vive dans un monde où on peut choisir la radio qu'on écoute. On peut prendre le temps de vérifier que tout est fiable. On peut critiquer notre société, personne n'est parfait, mais comme on est bien chanceux de vivre en 2026.
Vraiment. Donc, pour t'écouter, pour te voir évoluer, pour si on est passionné de ton sujet, très, très simple, sur tous les réseaux sociaux, tu es là partout. Stéphanie Jolicoeur.
Oui.
Vraiment un plaisir. Je te remercie de prendre le temps comme ça les week-ends pour venir me divertir, mais surtout me surprendre.
Bien, Carl, c'est tellement un honneur. J'aime ça venir te parler, puis j'ai hâte qu'on visite la Normandie avec toi et ta blonde.
Oui, vraiment cool. Et sais-tu quoi? On va appeler le déminage parce qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Salut!
Bye!
Merci, Stéphanie. Un super plaisir. Stéphanie Jolicoeur. Ah, ouais.
Wow,
ouais.
C'est la première fois que je l'écoutais, moi, un matin.
Ah oui?
Oui.
Elle nous a expliqué qu'un noyau atomique aussi, c'est un noyau chatouilleux, puis elle est capable de nous vulgariser ça de main de maître. Et elle sera avec nous dans la prochaine saison, parce que je voulais avoir beaucoup... Ben, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui viennent mettre leur couleur, leur grain de sel dans le show du matin week-end, Mais elle, c'est la jeunesse, c'est une fille qui est super allumée, qui est bonne vulgarisatrice, puis qui nous amène complètement ailleurs. Je ne m'attendais pas à celle-là. Elle m'a pogné dans le détour. Vraiment. On fait une pause et au retour, on s'en va voir Jimmy. Notre ami Jimmy, qui pédale pour une cause, qui a fait le tour de la planète. Et moi, j'adore le tour de la planète. On va jaser. T'es rendu où, Jimmy? On ne reviendra pas long.
Le show du matin week-end.
Radio X.
Cette semaine, écoute le retour.
Vous pourrez gagner l'un des 5 accessoires pour bien se reposer de chez Dormez-vous. Chaque jour, identifie quel animateur ronfle en onde et texte ta réponse. Que ce soit pour vos besoins en matière de sommeil, nos experts en sommeil sont là pour vous aider à trouver les meilleures solutions. Visitez Dormez-vous au fr.dormez-vous.com.
Je vous parle de Simon Laberge parce que je suis son porte-parole, il me fait confiance et j'adore sa manière de penser dans bien des aspects. Simon Laberge est avec nous depuis un bon moment. Il est premier au palmarès Via Capital. Il a bien l'intention d'y rester. Il a vendu 400-500 maisons l'année passée. C'est à coup de 400-500 maisons qu'on travaille année après année. Et son secret, c'est pas compliqué, c'est toute son équipe. Il y a une équipe extraordinaire. C'est un gars qui, je le dis souvent, mais c'est un gars qui est allumé puis qui est capable de te rassurer dès le premier appel. Tu sais, t'as envie de parler de char, tu parles de Carbo. T'as envie de parler de maison, tu parles avec Laberge. C'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que le prix médian de l'unité familiale est toujours en forte progression. Ça, c'est pas une surprise pour personne. Les maisons, c'est plus achetable. Mais quand même, si tu veux vendre vite et bien, il y a un numéro de téléphone à composer. Il y a une manière de rejoindre Simon Laberge et c'est va voir son site internet simonlaberge.com.